Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine, dans Escale, nous voyons comment tirer les leçons du génocide du Rwanda, 18 ans après, pour construire un meilleur avenir. Nous revenons notamment sur l'œuvre de notre invitée, Odile Gakire-Katese, la dramaturge rwandaise qui a pour principal objectif de créer des espaces sereins pour que les Rwandais arrivent à construire une mémoire apaisée du génocide, pour qu'ils retrouvent l'espoir et aillent de l'avant. Bonne écoute. Chaque année, en avril, les Nations Unies commémorent l'anniversaire du génocide rwandais en organisant une cérémonie au siège de l'ONU à New York. Cette année, le thème choisi était « Tirer les leçons de l'histoire pour construire un meilleur avenir ». Au centre des cérémonies, le projet « Le livre de la vie » de la dramaturge rwandaise Odile Gakire-Katese. Un recueil épistolaire des vivants aux morts pour lequel cet artiste engagé a invité des survivants, veuves et orphelins du génocide, ainsi que des génocidaires, à témoigner en écrivant soit à ceux qu'ils ont perdus ou à ceux qu'ils ont tués.
To my spouse, who I loved.
Lors de la commémoration officielle au siège de l'ONU, des acteurs ainsi que des hauts fonctionnaires des Nations Unies ont lu quelques-unes des lettres. En impliquant Hutu et Tutsi, survivants et génocidaires, côte à côte dans ces projets, Odile Gakire-Katese espère donner la possibilité au Rwanda et aux Rwandais de se réconcilier et de se reconstruire.
C'est un projet qui a commencé au Centre universitaire des arts de l'Université nationale du Rwanda à Butare en 2009 et qui est un projet justement où on redonne la vie aux morts pour que l'énormité de ce qui a eu lieu au Rwanda soit un peu conjuguée au singulier parce que ça reste tellement immense, on a tellement de noms qui n'ont pas nécessairement d'écho dans les gens puisqu'on ne les a pas connus et qui fait que un peu les victimes du génocide restent des victimes inconnues pour le monde entier. Donc c'est un livre où on se permet de bâtir un pont entre la vie et la mort, où on va à la rencontre avec eux pour les connaître mieux, ne pas nécessairement connaître que leur fin, comment ils sont morts. Ça, on sait que ça a été dramatique avec le génocide. Et cette mémoire où on ne s'arrête qu'à la fin de leur vie, comment ils ont reçu des coups de machette, comment ça a été horrible, ne nous réconcilie pas nécessairement avec l'avenir ni le présent. Donc le livre de la vie, c'est un peu revenir sur la vie des victimes du génocide, ce qu'ils étaient avant de mourir. C'était des personnes qui avaient des yeux, qui avaient une certaine peau, qui avaient des rêves. Donc c'est un peu personnaliser les victimes du génocide pour créer une mémoire vivante et vivace et avoir aussi une opportunité de dire ce qu'on n'a pas pu dire. Puisque la mort a été tellement brutale et inattendue, et que jusqu'au bout, certaines personnes ont gardé l'espoir de retrouver les membres de leur famille, et qu'à la fin du génocide, on se rendait compte qu'on était resté seul. Et puis c'est une manière aussi symbolique peut-être d'essayer, de tenter de trouver une certaine revanche par rapport à la mort.
Il y a donc un côté qui est assez thérapeutique quelque part.
Oui, je l'espère beaucoup. En tout cas, je l'ai vu avec les veuves avec lesquelles on a travaillé, ou les orphelins. Et je crois que c'est aussi, ça c'est vrai, un espace d'évacuation où on parle de sa peine, où on parle de ses espoirs. Et ça permet de mieux continuer puisqu'on sait que quelque part, le contact qui a été rompu, le lien qui a été rompu, on le rebâtit d'une certaine manière. Je pourrais parler particulièrement d'une veuve qui a fait partie de ce projet, qui travaille à la poste, comme par hasard. Et elle écrit à sa famille depuis 1994. Elle a 2 ou 3 carnets où elle écrit à Noël, à leur anniversaire, à son mari, à ses 2 enfants qu'elle a perdus. Et c'était la veuve qui se portait le mieux parce qu'en fait, ils ne sont jamais partis. Elle les a toujours gardés avec eux. Et donc, elle se porte très bien psychologiquement. Et donc, oui, ça a été un acte assez traumatique pour ceux qui écrivaient pour la première fois, puisque pourquoi écrire aux morts, aux disparus? Est-ce qu'ils vont nous répondre? Il y a eu des questions comme ça où on me demandait sérieusement s'ils allaient répondre.
Parce qu'il faut le dire, c'est une collection épistolaire, en fait. C'est une collection de lettres qui ont été écrites.
Oui, donc des veuves ont écrit en majorité à leur mari. Les orphelins ont écrit aussi en majorité à leurs parents. Les génocidaires ont écrit à leurs victimes, les personnes qu'ils ont tuées. Parce que moi, je crois que tout aussi commence avec la parole, avec l'écriture, et que quelque part, on recrée une certaine vie. Et c'est pour ça que le projet s'appelle le livre de la vie.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée pour ce projet et qu'est-ce que vous souhaitez qu'il devienne?
L'idée est venue d'un travail que je fais depuis 10 ans. Je concentre mon travail sur la commémoration du génocide tous les 5 ans. Et en 2004, moi-même, je crois que c'était la première fois que j'étais confrontée à ma propre histoire et où je voyais l'impact de la pièce que nous avions créée sur les gens. Et l'impact était vraiment dévastateur. Alors que nous voulions apporter un peu de paix ou de sérénité. On parlait de la mémoire, il ne faut pas oublier, mais cette mémoire qu'on n'oublie pas, elle nous fait tellement mal aussi. Et alors comment se réconcilier avec cette mémoire? Comment construire une mémoire sereine qui permet aux gens quand même d'aller mieux après? Donc c'est pour ça qu'on a pensé au livre de la vie. Et les lettres sont venues aussi parce qu'on est une société qui a une tradition orale. On ne garde rien, on raconte beaucoup d'histoires, mais on n'écrit pas. Donc c'est vrai que quelque part ils vont vraiment disparaître puisque, à part la première génération qui les a connus, est-ce que nos enfants connaîtront ces victimes-là si on n'écrit même pas? Donc avoir des relations assez personnelles à travers les lettres, pour moi c'était important parce que déjà, le côté thérapeutique c'est qu'il faut vraiment que les gens parlent de leur peine. On est une société qui ne s'exprime pas beaucoup, on garde tout à l'intérieur, parce qu'un homme, un vrai, doit rester solide en apparence, même si à l'intérieur. Les larmes, on dit au Rwanda que les larmes coulent de l'intérieur. Donc il faut absolument évacuer, parce que justement, ça fait du bien aux vivants. Et puis, ça permet à ceux qui n'ont pas connu, à nos enfants, de connaître leurs grands-parents, leurs oncles, leurs cousins. Donc ce côté-là était assez important. Et vraiment ramener ce drame à un niveau personnel. C'est là qu'on touche vraiment le désespoir des gens, ou leurs espoirs. Et on garde ça écrit quelque part. Que l'histoire ne soit pas écrite seulement par le gouvernement. Que l'histoire soit écrite aussi par de simples personnes.
Umura mama, umura, umura mama, umura.
Où en sont les Rwandais 18 ans après le génocide?
En apparence, on s'est remis très vite du génocide. Il y a une volonté politique assez forte de reconstruire très rapidement le pays parce que porter le masque du génocide avec toutes les conséquences du génocide pendant longtemps n'est pas envisageable parce qu'après, ce sera difficile d'exister à côté d'autres pays. Donc, on se refait une beauté, si on peut dire, d'une manière physique. Le pays est très beau, très vite reconstruit, très propre. Ça, c'est très important. Donc, apparemment, ça va bien. Et j'espère vraiment que ça va aussi si on creuse. C'est tout ce que j'espère. Parce que comment vont les gens, à part des infrastructures, une certaine économie? Donc, ça va. On dirait que ça va. Mais les gens, dans leur village, pas à Kigali toujours, dans leur village, dans leur maison, dans leur solitude, est-ce qu'on les a reconstruits aussi bien et aussi vite qu'on a reconstruit le pays? Là, j'ai un peu de doute. Et mon souhait est qu'on mette la même énergie à reconstruire les gens, pour reconstruire des gens solides, pour reconstruire des espoirs, pour reconstruire la foi, pour reconstruire les sourires, cette lumière dans les yeux. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que justement, comment est-ce qu'on se remet d'un génocide? Nous ne savons pas, puisque c'est le premier génocide qui a eu lieu et il a détruit très profondément la société rwandaise, les familles. C'est un génocide qui a divisé le père et l'enfant, la mère a tué le mari. Mais aussi, 18 ans après, ou immédiatement après, il y a aussi les miracles de la vie, des choses que moi, personnellement, je ne veux pas questionner. Parce que, à force de vouloir tout intellectualiser et comprendre, on devient fou. Puisqu'on ne peut pas tout comprendre. On ne peut même pas comprendre comment le génocide est arrivé, mais il est arrivé. Donc je ne cherche pas à comprendre, ça a eu lieu. Mais après, de l'autre côté, comment après un génocide comme ça, comment une mère peut quand même pardonner à son fils qui a tué, qui est en prison et continuer à être la mère? Comment peut-on encore vivre ensemble si le tissu social a été aussi détruit? Je ne sais pas, je ne peux pas non plus comprendre, mais on le fait.
Et c'est l'objectif quand même de vos projets, c'est l'objectif des œuvres que vous mettez sur pied.
Oui, absolument, mais d'une manière instinctive, pas nécessairement avec l'intellect, puisque quelque part, on se demande toujours si ce qu'on fait est vraiment approprié, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est la réponse qu'il faut donner à certaines difficultés ou à certaines questions. Il n'y a pas le choix. La vie est là, elle s'impose, et pour qu'on puisse continuer justement vers l'avenir, le chemin reste la réconciliation, le pardon et l'unité. Mais je trouve aussi qu'il est important qu'il y ait certaines personnes qui résistent au pardon, parce que le pardon, à un certain moment aussi, peut banaliser le crime. Ça veut dire que voilà, on peut toujours faire des génocides et les gens pardonneront. Donc résister aussi au pardon, c'est aussi une stratégie pour que ça ne se reproduise plus, pour que ça puisse rester ce crime tabou, en espérant que quelque part aussi, que même Dieu ne pourra pas pardonner. Donc voilà, c'est un pays fait de contradictions, de beaucoup de difficultés, mais la vie trouve son chemin.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir justement de dédier votre œuvre justement à la réconciliation et comment le génocide vous a-t-il touché en tant qu'artiste ?
Je suis née au Congo-Kinshasa et je suis revenue, j'avais 20 ans en 97, au Rwanda et c'était un pays que j'avais besoin de m'approprier, le pays et l'histoire, parce que pendant longtemps j'ai été zaïroise. Quand ils sont partis au Congo, mes parents, ils n'ont pas voulu vraiment parler du passé. Je crois qu'ils sont partis à l'extérieur avec l'espoir de vraiment avoir une nouvelle vie, de laisser derrière leur passé. Ce qui fait que je ne connais pas ma langue maternelle, je ne connais pas mon pays, je ne connais pas ma famille. Et puis pendant les commémorations du génocide, j'avais l'impression que nous autres qui n'étions pas là pendant le génocide n'étions pas nécessairement survivants. Ce n'était pas notre deuil. Mmh. Il y avait certaines personnes qui s'appropriaient le deuil. C'était eux, ils étaient là, ils savaient comment ça s'est passé et tout. Et j'avais l'impression que j'étais coupable de n'avoir pas été là, parce que j'aurais dû être là et souffrir avec les autres. Il y a eu des discussions très difficiles avec les survivants du génocide, les rescapés, où moi je revendiquais aussi le statut de rescapé. Je n'avais pas besoin d'être là. Et heureusement que je n'étais pas là. Parce que j'estime aussi qu'il faut un peu de tout. Pour faire un monde, il faut aussi des gens qui soient venus d'ailleurs, qui ont la distance nécessaire par rapport au génocide, pour pouvoir l'approcher différemment ou apporter, chacun apporte ce qu'il a, et son bagage, et ainsi de suite. Pendant les commémorations, en tout cas, moi, je me sentais très coupable de n'avoir pas été là, et apparemment, je n'avais pas à pleurer. Mais après, j'ai eu une réaction de revendication. J'ai dit, c'est mon deuil. Vous n'aurez pas suffisamment de larmes pour les pleurer. Vous avez besoin que le monde entier pleure avec vous pour que ce deuil passe.
Garuka shenge dori zuba ryatse nutinye buryo iminsi iragenda.
Il y a un grand travail qui est fait par rapport à la mémoire au Rwanda. Et je crois que le sens de l'histoire est très important pour l'avenir. Quand on visite les sites mémoriaux et tout, il y a des listes. C'est tellement froid. Pour moi, ça n'avait aucun écho, même pour moi. Et pourtant, mes cousins étaient sur la liste. Et je trouve que quand on va dans les détails, dans des choses aussi spécifiques que le sourire, que la couleur des yeux, que les tics que chacun avait, les victimes du génocide à ce moment-là deviennent réelles et on se les rappelle. Donc pour moi, il fallait aller au-delà de ces listes et aussi du côté macabre, même si c'était macabre, je sais. Il faut aussi qu'on ait une autre mémoire plus allégée. Est-ce que c'est plus allégé ? Mais il faut qu'on propose aussi autre chose. Et ça, ce travail-là a déjà commencé au Rwanda, où on parle des justes, ça veut dire que c'est des personnes qui ont sauvé d'autres vies, qui ont mis leur vie en danger pour sauver d'autres vies. Donc c'est une mémoire qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Mais aussi, justement, est-ce qu'on peut avoir une mémoire positive d'un génocide ?
Oui.
C'est une question qui reste à répondre.
C'est pour ça que vous mettez les veuves, les orphelins et les génocidaires côte à côte dans vos projets, dans...
C'est vrai que la tendance est toujours de prêter oreille aux veuves, aux victimes, que à ceux qui ont commis le crime, qui sont les génocidaires. Mais nous faisons tous partie de la même famille. Parce que c'est ça aussi la particularité du génocide au Rwanda, c'est que dans une même famille, on retrouve des victimes et des génocidaires. Donc, est-ce qu'on va séparer encore les gens en partant de ça ? Non. Mais après aussi, le fait que le Rwanda ne pouvait pas se permettre d'avoir 120 000 prisonniers, déjà d'une manière, on ne peut pas les prendre en charge, mais ça veut dire qu'ils rentrent chez eux. Alors, comment rentrent-ils chez eux ? Si on n'a pas pris soin d'eux, comment refaisons-nous la vie ensemble après ? Moi, je trouve aussi, autant les victimes sont, c'est vrai, des victimes du génocide, mais autant aussi les génocidaires sont aussi très fragiles. C'est des personnes qui ont beaucoup plus besoin d'être rebâties en tant qu'être humain pour être réinsérées dans la société.
Even now, my heart is restless. I need a wind to blow through and air out my heart so that I may find peace.
Ce que j'apprends tous les jours, c'est qu'ils ne sont pas si différents de moi. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que les raisons qui ont poussé les gens à tuer, c'est des raisons tellement faciles et simples qu'on se demande est-ce que ça peut vraiment rentrer dans la tête des gens. Donc reconstruire pour que ceci n'ait jamais lieu, ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui ont tué qui doivent prendre la résolution de ne plus le faire. Ce n'est pas à ceux-là qui n'ont pas tué. Donc je crois qu'il faut prendre soin de tout le monde parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble.
En ce 18e anniversaire du génocide, Odile Gakire Katese appelle les gens de par le monde à contribuer en écrivant eux aussi des lettres rwandaises pour écrire une mémoire plus paisible et positive, pour ramener l'espoir et la joie dans notre société. Fin de votre magazine d'escale consacré cette semaine à la reconstruction du Rwanda après le génocide pour un meilleur avenir. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.